Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Linda Christelle Ballier.
Heureuse de vous retrouver pour cette édition sur Radio de la Paix. À la une de ce 18h présidentiel 2025, Charles Blégoudet décrit les modalités de la mise en œuvre de l'opération d'actualisation de la cartographie électorale de la CEI qu'il juge de précipitée et d'entêtée. Vous entendrez dès l'entame le secrétaire général du COGEP, Dr Patrice Saraka. Lutte contre le réchauffement climatique, le ministère des Eaux et Forêts a récemment inauguré le chantier École forestier de la structure FOA, Foncier Foresterie Agriculture, qui ambitionne être un acteur majeur dans la reconstruction du couvert foncier ivoirien. L'actualité sous-régionale est marquée par l'expulsion de diplomates français du Burkina Faso et la nouvelle constitution controversée au Togo. Le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire des relations internationales, se prononcera sur le premier sujet quand maître Jean Yaouvi Degli, avocat au barreau du Togo, interviendra sur le second. Et après l'interdiction d'exercer sur les grandes artères du district d'Abidjan, les vendeurs ambulants et charretiers continuent leurs activités selon notre reporter Mel Emmanuel à qui ils ont confié leur raison. On en saura un peu plus dans un dossier d'actualité en toute fin d'édition. Voilà pour nos grandes lignes. Opération d'actualisation de la cartographie électorale annoncée par la CEI, la Commission électorale indépendante. Le parti politique de Charles Blégoudet dénonce ce qu'il qualifie de précipitation et d'entêtement avec lesquels la Commission électorale indépendante veut la faire. Là-dessus, écoutons le secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, Dr Patrice Saraka, joint par Francis Cassis.
Il faut d'emblée préciser que par l'opération en tant que telle que nous condamnons, c'est la méthode qui est utilisée, c'est la précipitation et l'entêtement de la CEI à vouloir conduire un si important processus que nous condamnons. Sinon, la mise à jour de la cartographie électorale est une opération qui est intimement liée à l'établissement du répertoire des lieux et bureaux de vote. Et donc on ne peut pas condamner une telle opération dans son principe. Ce sont les modalités de sa mise en œuvre que nous condamnons en fait.
Vous avez parlé de modalités de mise en œuvre que vous condamnez et puis aussi de précipitation et entêtement. Pourquoi ?
La précipitation et entêtement parce que nous, c'est par voie de presse que nous avons eu écho, eu l'information que la CEI devait conduire cette opération qui devait durer un mois. Donc c'est là la précipitation, l'absence de concertation, d'information de toutes les parties prenantes de l'écosystème sociopolitique ivoirien. C'est cela que nous appelons précipitation. L'entêtement vient de ce que des voix se sont levées au niveau de la classe politique de la société civile ivoirienne pour que l'opération soit bien conduite et que nous puissions atteindre l'objectif à terme dans une approche inclusive. Et voilà, la CEI a semblé faire la sourde oreille.
Dr Patrice Saraka, secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP. L'honorable Yodia Oufoué-Augustin, secrétaire exécutif en charge de la mobilisation du PDCI-RDA, a entamé une tournée dans les districts autonomes du Dinguélé et du Poro à la faveur d'un meeting tenu le 18 avril dernier à la place Gondala du quartier Soba de la cité du Poro. Il a fait le bilan de cette tournée. L'émissaire du président Tidiane Thiam est au micro de notre confrère Tommy Corona.
Vraiment, c'est un satisfait général. Les gens criaient partout que le PSI-RDA était mort dans le Nord. Mais effectivement, les gens pouvaient penser que le PSI était mort s'il n'y avait personne de la haute direction qui venait dans ces deux districts. Les parents qui n'ont vu personne peuvent croire lorsque les gens m'ont dit que le PSI maintenant est intégré le RHDP. Donc les parents étaient dessus. D'autres ont jeté leurs habits des PSI parce qu'ils croyaient à la disparition du PSI. Et les délégués, au fur et à mesure qu'on avançait, étaient affaiblis et tout a été mis en œuvre par le RDRHDP pour les affaiblir au maximum afin qu'ils puissent croire que vraiment le PSI avait disparu. Nous sommes revenus dans ces deux districts pour démontrer que le PSI est vivant et qu'aujourd'hui nous avons un président, en l'occurrence le président Tidiane Thiam, qui est déterminé à reprendre le pouvoir d'État et il nous a instruit de venir dans le Grand Nord parce que c'est ici qu'il prenait sa première tournée. De son vivant, le président Fobani a annoncé publiquement que ses héritiers, c'est les Thiam. Donc aujourd'hui, son petit-fils est candidat et il est très important que la famille du Palinfo Moukoulibaly, le peuple Senufo, qui a toujours soutenu le président Félix Kobani, parce que le président Félix Kobani était considéré comme un enfant pur du peuple Senufo. Donc c'est pour ça que nous sommes venus ici sur cette terre de Kogo, particulièrement à côté du musée, pour vraiment dire avec engagement que le peuple Senufo a pour obligation de soutenir le président Tidiane Tcham, parce que c'est un des leurs.
Et Oudiaouf Augustin, que vous venez d'écouter, est le député PDCI de la commune de Yopougon. Il est également le secrétaire exécutif du PDCI en charge de la mobilisation. Rôle des acteurs des médias dans la gestion de l'information en période électorale. Ce thème a été abordé sous forme de panel ce lundi à la Fondation Frédéric Naumann à Cocody, à l'initiative du réseau Action, Justice et Paix. Cette activité vise à mettre en lumière la responsabilité du journaliste pendant les élections face au foisonnement des fausses informations. Les panélistes, constitués de journalistes et d'acteurs de la société civile, ont éclairé l'audience sur ce sujet. Écoutons Dr Oboué Anissé du réseau Action, Justice et Paix.
Aujourd'hui, l'histoire des crises en Côte d'Ivoire a montré que les crises qui ont été beaucoup plus violentes se sont produites pendant les périodes électorales. 2025 est une année électorale pour la Côte d'Ivoire, donc déjà, il faut préparer les acteurs des médias, il faut préparer les organisations de la société civile qui sont au contact des populations à pouvoir avoir une utilisation saine des réseaux et des médias sociaux et de pouvoir partager des messages sains en vue de contribuer à la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Durant la période de la CAN, nous avons constaté plusieurs images qui avaient été manipulées, montées de toutes pièces, qui circulaient et grâce à l'intelligence artificielle. C'est déjà un signal que nous lançons aux acteurs des médias de pouvoir faire surtout attention et aussi aux décideurs de pouvoir jeter un regard sur cet aspect-là parce que pendant la période électorale, ne soyons pas surpris de voir ces messages-là être diffusés, pullulés un peu partout pour pouvoir entretenir la haine et aussi la violence au sein des communautés et des populations.
C'était à l'instant Dr Oboué Anissé du réseau Action, Justice et Paix. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a procédé samedi dernier à l'inauguration officielle du chantier école forestier de la structure FOA, Foncier Foresterie Agriculture. L'événement s'est déroulé à Angoda, localité située dans le département de Toumoudi, où nous retrouvons notre envoyé, notre correspondant sur place, Émile Yao.
Planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique ainsi que ses effets sur la biodiversité et l'homme, un objectif majeur parmi tant d'autres que poursuit la société FOA, explique sa directrice générale, Ouattara Kati.
Durant ces 5 dernières années, nous avons produit plus de 6 millions d'arbres, lesquels nous ont permis de transformer environ 198 000 hectares de culture en agroforesterie et de reboiser 1000 hectares dans le domaine rural sous forme de reforestation. Notre ambition est de devenir un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique de reconstruction du couvert forestier ivoirien.
Pour joindre l'acte à la parole, la directrice générale du FOA, Foncier Foresterie Agriculture, a fait parler son cœur.
Dans la perspective d'un partenariat durable avec le ministère des Eaux et Forêts, nous voulons d'ores et déjà contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle des services techniques du ministère des Eaux et Forêts en faisant un don de 10 motos, 1 million de sachets de pépinières et de 50 000 plantes d'espèces forestières issues de notre serre.
Une opportunité pour l'État ivoirien au regard de la politique forestière nationale, se réjouit Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts.
Cette politique forestière ambitionne de porter le taux de couverture forestière estimé à 9,8% du territoire national en 2021 à 20% à l'horizon 2030.
Notons qu'il faut environ 100 millions d'arbres à planter chaque année pour atteindre l'objectif 2030. Émile Yao de Angoda, Radio de la Paix.
Et puis la société coopérative agricole Café Cacao Sanga de Mans a organisé durant 2 jours à son siège un renforcement de capacité de ses membres producteurs Café Cacao sur les rudiments de la certification Fairtrade. Objectif, permettre à ces différents producteurs de produire de la bonne qualité de café et de cacao, la bonne qualité exigée par les partenaires nationaux et internationaux. Les échos avec notre correspondant dans le Tonkwi, Stéphane Adams.
Ils étaient une quarantaine de membres producteurs de café cacao de la société coopérative agricole Café Cacao Saint-Gadoman à être outillés. Le formateur Tano Firmin rappelle ici le module développé à leur endroit.
Je suis venu leur enseigner les rudiments nécessaires au niveau de la certification Fairtrade. Appréhender le fonctionnement du système coopératif pour plus permettre aussi d'aller de l'avant. Parce que la certification Fairtrade permet à la coopérative de pouvoir se démarquer des coopératives qui ne sont pas certifiées.
Et la présidente du conseil d'administration de la coopérative Senga, Madame Bamba Bernadette, d'exhorter les participants en ces termes.
Qu'ils essayent de mettre en application tout ce qu'ils vont en prendre. Nous sommes tous des producteurs. Donc, la qualité de travail nous permettra d'aller plus loin pour ne pas qu'on se retrouve dans la main des acheteurs où le gouvernement va fixer un prix à 1000 francs et que ces personnes vont venir acheter nos cacao à 800 francs.
Des enseignements bien reçus par les participants à l'image de Gueux Zegbe Alain.
D'abord, moi-même, je suis planteur et quand j'assiste à une formation qui mène à la qualité du travail, vraiment, je suis très heureux. Parce que c'est le bon cacao qui se fait bien vendre. Si c'est pas de la bonne qualité, les acheteurs n'arrivent pas à payer convenablement. Donc, il faut y travailler pour vraiment avoir des méthodes de ce genre de qualité de cacao. J'exhorte tous les autres planteurs à vraiment suivre la voie que nous empruntons aujourd'hui.
À noter que la société coopérative agricole Café Cacao Saint-Gadoman compte à ce jour 3214 producteurs. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Un mode culture à présent avec le Massa, le rideau de l'édition 2024 du marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan est tombé ce week-end. Ouverte le 13 avril dernier, la 13e édition du Massa a refermé ses portes samedi 20 avril au Palais de la Culture Bernard Balin-Dadier de Trècheville. Une cérémonie marquée par deux temps forts, notamment la signature d'une convention de financement au profit des acteurs de l'industrie culturelle et créative et la remise du Grand Prix Henriette Dagry-Diabaté. Le point avec Didier Blé.
Le 13e Massa en Côte d'Ivoire s'est achevé dans la liesse avec de nombreux visiteurs au Palais de la Culture de Trècheville. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, a annoncé au cours de la cérémonie de clôture la mise en place d'un financement d'un montant de 1 milliard de francs CFA pour les acteurs des industries culturelles et créatives. Ce financement contribuera à la richesse culturelle du pays, a souligné la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Le Massa, quant à lui, s'achève avec plus de 600 contrats conclus. À partir de cette 13e édition, le Massa consacre désormais un moment fort en rendant les honneurs à l'ancienne ministre de la Culture, initiatrice du Massa, le professeur Henriette Dagry-Diabaté, et pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, cela est amplement mérité.
Cette dame dont le combat acharné nous faut aujourd'hui, combat de partage et d'échange exceptionnel, n'a pas fait que porter sur les fonds baptismaux le marché des arts et du spectacle africain d'Abidjan. Elle a doté la Côte d'Ivoire d'une politique culturelle aussi bien cohérente que visionnaire.
La médaillée de bronze aux Jeux de la Francophonie 2023, catégorie chanson, la percussionniste Léry Sankofa est devenue la première artiste à remporter ce prix.
C'est avec un cœur reconnaissant, plein de gratitude que je reçois ce prix. Merci à tous les formateurs de l'INSAC, parce que je suis un produit de l'INSAC. Merci.
1000 festivaliers, une centaine de programmateurs, 300 artistes et 59 pays ont pris part à ce Massa 2024.
Page internationale à présent, 3 diplomates français déclarés persona non grata sur le territoire du Burkina Faso pour activités subversives. Ils ont été priés, ces différentes personnes ont été priées de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 48 heures, selon le communiqué du Burkina. La France a déploré donc cette décision prise par les autorités burkinabées, estimant qu'elle ne reposait sur aucun fondement légitime. Comment peut-on comprendre ce qui se passe entre la France et le Burkina Faso? Élément de réponse avec le professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire des relations internationales à l'université Félix Fouette-Boigny d'Abidjan, Cocody.
Ça vient encore clouer ces relations. Vous savez, depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, les relations entre le Burkina et la France ont pris un virage de 80 degrés, au point où la France, à travers ses intérêts au Burkina, sont de plus en plus réduits, et le Burkina ayant regardé du côté de la Russie. Naturellement, ce qui vient de se passer là va davantage crisper les relations entre les deux capitales.
Mais ce n'est pas la première fois que le Burkina Faso indexe des représentants de la diplomatie française.
Les régimes militaires qui viennent toujours par des coups d'État ont animé une certaine complotite à tout moment, ils voient un peu de complot partout. Et vous savez aussi qu'en interne, dans la même Burkina depuis quelques mois, ce n'est pas la grande sérénité. Certains militaires et gendarmes burkinabés ont été tantôt mis en prison, tantôt sanctionnés. Aussi que les trois régimes poursuivent Niger, Mali et Burkina accusent régulièrement la France. L'un dans l'autre, c'est une suite logique de ce qui s'est passé depuis 2022.
Alors justement, à quoi nous attendre avec cette nouvelle situation?
Vous savez, la diplomatie a plusieurs ressorts. La France trouve infondées les accusations. Si elle est capable de produire des éléments qui vont peut-être rassurer les autorités burkinabées, cela pourrait certainement régler la situation. Mais si la France est limite seulement à des paroles pour dire que c'est infondé, je pense que cela ne fera que radicaliser davantage la position des autorités burkinabées. Ça va permettre également aux autorités burkinabées de détourner un peu l'opinion nationale burkinabée sur les questions internes et de voir encore la France comme un bouc émissaire. Tout ça rend la fête dynamique dans la relation entre la France et Burkina, et aussi surtout pour la survie du régime militaire au Burkina.
Professeur Bamba Abdoulaye, spécialiste en histoire de relations internationales à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, interrogé par Paul Bénédicte Bolou. Une autre actualité internationale qui nous intéresse, c'est la nouvelle constitution controversée au Togo. À moins de deux semaines des législatives du 29 avril prochain, cette nouvelle constitution instaure un régime parlementaire et a été adoptée par les députés avec 87 voix pour et zéro contre, mais elle est contestée par l'opposition alors que le président de la République, Faure Gnassingbé, doit la promulguer dans un délai de 15 jours. Là-dessus, écoutons Maître Jean Yaouvi Degli, avocat au barreau du Togo, ancien avocat au barreau de Paris et président du mouvement Bâtir le Togo.
La nouvelle constitution est une constitution qui porte un régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est le régime qu'on a en Allemagne, et en Angleterre, et en Israël et dans d'autres pays. Dans ce régime, le président de la République, il occupe en fait une fonction honorifique. La réalité du pouvoir se trouve entre les mains de celui qui joue le rôle de premier ministre. Dans ce régime, il n'y a pas de limitation de mandat. Tant que votre parti politique est majoritaire à l'Assemblée, ou tant qu'il peut se proclamer majoritaire, eh bien, c'est son représentant qui joue le rôle de chef de gouvernement. Et dans le cas du Togo, on a désigné ce chef de gouvernement sous le vocable de président du Conseil des ministres.
Alors, au-delà donc de la non-limitation de mandat, qu'est-ce qui justifierait aussi le fait que l'opposition, dans sa grande majorité, soit vent debout contre cette nouvelle constitution ?
En fait, l'opposition est vent debout aussi à cause de la manière dont la chose a été faite. Je crois qu'il est indispensable qu'on ouvre le débat. Cela doit se faire par référendum. Le peuple tout entier doit être intéressé.
Vous écoutiez à l'instant Maître Jean Yaouvi Degli, avocat au barreau du Togo et président du mouvement Bâtir le Togo, sur la nouvelle constitution controversée justement dans le pays. Il a été joint par Aoussi Potin. Et comme nous vous le disions en titre, nous avons un dossier d'actualité lié à l'exercice des activités des vendeurs ambulants et charretiers, appelés dans le jargon ivoirien ou autres outigis dans les communes d'Abidjan. Eh bien, ceux-ci continuent leur commerce malgré le communiqué produit par le district autonome d'Abidjan le leur interdisant. Ils soutiennent qu'ils n'ont nulle part où aller et vivent de cette activité. C'est ce qui ressort de ce constat terrain de Mel Emmanuel qu'il nous relate dans ce dossier d'actualité.
Riviera Palmeraie, carrefour après barrage dans la commune de Cocody. Ils sont nombreux qui pratiquent le commerce à la criée, communément appelé commerce ambulant. Concernant ces derniers, le district autonome d'Abidjan a produit un communiqué interdisant leur activité ainsi que celle des charretiers, appelés dans le jargon ivoirien ou autre tigui, dans les artères de la ville d'Abidjan, l'objectif étant de réduire le désordre urbain selon le communiqué. Uncho Kwao Vincent, deuxième vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan.
Dans la même ligne de la lutte contre le désordre urbain et l'assainissement, nous débarrassons Abidjan de certaines pratiques qui ont cours c'est-à-dire la vente sur les grandes artères et surtout l'utilisation des charrettes appelées communément auto qui empêchent la fluidité routière.
Une information dont disposent certains commerçants ambulants comme Salimata, vendeuse d'eau et de cigarettes.
Non, on fait comment ? On n'a pas l'argent. Quand on reste à la maison, là, on va l'argent qu'on va pousser nourrir. C'est ça aussi le problème. C'est quand on arrête aussi là, on se voit comment on mange.
Aux alentours de la gare Nord, dans la commune d'Adjamé, le constat est quasiment le même. Les vendeurs ambulants sont présents et il y a beaucoup plus de charretiers ou autres tigis dans la zone. Eux aussi sont informés de l'injonction du district autonome d'Abidjan, mais attendent des mesures d'accompagnement avant de mettre un terme à leur activité. Samake Seidou.
Ouais, c'est que moi j'en pense, on va nous donner un emploi. Si on nous donne un emploi, on va arrêter ça. Va dans un bureau là, ça va plaire à personne. Et au lieu d'aller voler ou bien au lieu d'aller agresser quelqu'un là, on pourra faire ça pour survivre. Maintenant, s'il y a autre activité, pourquoi on puisse arrêter Van Ambulon là? Il n'y a qu'à nous dire on va faire ça et puis on va arrêter.
Les populations vivant dans la ville d'Abidjan ont parfois recours aux produits et services proposés par ces commerçants ambulants et charretiers. Elles aussi donnent leur avis par rapport aux communiqués produits par le district d'Abidjan.
Il y a plein de gens qui sont dans la rue, ils n'ont pas de moyens pour prendre les magasins. Donc quand ils se promènent, c'est dans ça aussi qu'ils gagnent un peu. Donc si on est dans la rue là, comment vous faites pour vivre?
C'est bien qu'on puisse réguler ce domaine parce que ça rendra la ville un peu plus belle et ça va préserver la vie même des vendeurs à la sauvette sur les routes. Mais après, il y a le côté où ces personnes-là, ils font quoi par la suite? Tel que les gens se lèvent le matin, ils vont au bureau, c'est comme ça aussi. Eux, ils vivent de ça, c'est leur travail. On envisage quoi pour eux?
À cette interrogation, il est à noter que ni le district, ni le gouvernement n'ont à ce jour annoncé de mesures d'accompagnement ou de recasement des commerçants ambulants et charretiers.
Merci à vous, Mel Emmanuel, pour ce dossier d'actualité qui clôt notre édition, dont voici le rappel de l'essentiel. Présidentielle 2025, Charles Blé Goudé décrit les modalités de la mise en œuvre de l'opération d'actualisation de la cartographie électorale de la CEI qu'il juge de précipiter. Vous avez entendu dès l'entame de ce journal son secrétaire général, sinon le secrétaire général du COGEP, Dr Patrice Saraka, sur le sujet. Et parlons de lutte contre le réchauffement climatique. Le ministère des Eaux et Forêts a récemment inauguré le chantier École Forestier de la structure FOA, Foncier, Foresterie, Agriculture, qui ambitionne être un acteur majeur dans la reconstruction du couvert foncier ivoirien. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Jean-Claude Comé s'installe pour votre magazine Economia. Excellente soirée à tous.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'information économique.